Aujourd'hui, nous sommes tous Américains. Je dirais même plus, nous sommes tous États-Uniens. Aujourd'hui. Demain, on verra.
Les Américains, enfin je veux dire les États-Uniens d'Amérique, c'est la plus grosse puissance du monde, technologique aussi. C'est des gens qui ont toujours été à la pointe de la technologie, quoi. Dans les années 50, ils nous ont amené tous les robots ménagers. Ensuite, ils ont envoyé des astronautes sur la Lune. C'est des gens qui vont vite aussi, ils sont dans la performance. Ils ont inventé les fast-food, ils ont inventé le mot speed. Mais il y a qu'un truc qu'ils ne savent pas faire, ça ne met pas de chaco, c'est compter. Ça, ils mettent un temps pour compter, c'est incroyable. Les Shadows pompaient et les États-Unis comptaient. Et ils comptent, et ils comptent. J'imagine que c'est comme dans les BD, quoi. Mec, il est là, 372 239, 372 240. Tu veux un café? Oui, d'accord. Ah, merde! Putain, tu m'as fait perdre le chiffre. Bon, ben, je recommence. C'est ça, ça, comme ça, le comptage, aux États-Unis. Mais ça me fait rire. C'est vrai, ils n'ont pas encore inventé l'appareil qui permet de compter vite, alors qu'ils ont presque tout inventé. Ah, étonnant, ces Américains.
Je reconnais certains qui doivent pas rigoler parce qu'avec la victoire des démocrates, ils sont vachement mal. C'est nos intellectuels ex-gauchistes français qui avaient soutenu l'action américaine en Irak. Donc, ils avaient soutenu Bush indirectement. Et là, ils doivent être vachement emmerdés parce que les démocrates, il y en a de plus en plus qui veulent mettre fin à ce bourbier là-bas en Irak. Donc, les goupilles, les Glucksmann, ils doivent être vraiment mal. Parce que du coup, pour continuer d'avoir raison, ils vont être obligés de soutenir les républicains. C'est assez rigolo, moi, je trouve, de voir ça. C'est des mecs qui sont issus de mai 68 et tout ça, et puis qui vont se retrouver à soutenir Bush et les plus conservateurs des républicains. Alors ça, c'est... Là, je suis plié de rire, vraiment. Alors ça, c'est... Ils doivent être merdeux aujourd'hui, hein. C'est... Enfin bref, heureusement que même avec les pires choses, on peut rigoler, quoi.
La leçon à en tirer des élections récentes survenues aux États-Unis, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme dit si bien l'adage. Je pense aux prises de position de nos penseurs humanistes en France, tels Bernard-Henri Lévy, Fichtelkraut, Kouchner, Alexandre Adler, Frédéric Ancel, Nicole Bacharan, Caspi, et j'en passe. Les éternels invités et spécialistes, comme ils se définissent, de la plupart de nos médias publics ou privés. D'autres, par contre, ont émis des avis différents, comme Broman ou Edgar Morin, mais ces derniers, c'est des gens pas bien, paraît-il. Salut Daniel, Nadia de Strasbourg.
Bonjour, je suis dans l'absolu ce que vous n'aimez pas. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, je suis mère au foyer, je suis d'origine catholique, il m'arrive même d'aller à la messe. J'ai des enfants dans une école privée, j'écoute vos émissions. Et alors, si vous m'énervez, c'est parce que je suis pas foncièrement d'accord avec vous, mais en même temps, je vous dis merci parce que vous m'aidez à réfléchir et à me mettre un petit peu les idées en place. Donc, continuez surtout et n'hésitez pas. Je vous précise en plus, je vote à droite. Bon courage et à bientôt, au revoir.
Ouais, salut, c'est Jacques du repère de Tournai en Belgique. Bon, j'ai été un peu indiscret, hein. J'ai regardé dans votre agenda et en fait j'ai vu que vous n'avez rien de prévu pour ce soir. Et en plus, en fait, il n'y a rien à la télé, et puis vous n'êtes pas invité par votre belle-mère non plus. Donc, comme c'est le deuxième jeudi du mois, ben moi, ce que je vous propose, c'est de passer au repère des Amis de là-bas si j'y suis. Ça se passe au café Les Amis Réunis à la rue Saint-Martin à Tournai en Belgique. Et c'est à 19h ce jeudi. On compte sur vous. Ciao.
Oui, bonjour l'équipe de Daniel Mermet. Je suis tellement catastrophée de ce que j'entends à France Inter à propos de l'attaque israélienne que je ne sais même pas comment j'ai la force de vous parler. Mais c'est ma révolte qui me pousse à vous téléphoner. Et qu'est-ce qu'elle fait la communauté internationale là, à propos de ce que fait Israël sur Gaza là? C'est pas possible, c'est pas supportable. Si j'avais 20 ans, je serais déjà dans la rue. J'en ai un peu trop. Mais bon, c'est René de Paris. Au revoir.
C'est Odette de l'Ardèche. Je m'étonne de votre silence concernant ce qui se passe en Israël actuellement, enfin dans la bande de Gaza. Les Israéliens ont détruit une maison dont dans une ville dont il s'était retiré soi-disant, en tuant toute la famille, avec des femmes et des enfants. Depuis la rentrée, vous n'en parlez plus. Et je me demande s'il y a quelque chose pour que plus personne n'en parle, de façon à ne pas être taxé d'antisémitisme. Si vous n'en parlez pas, qui le fera? Voilà, merci.
Bonjour, je voudrais signaler qu'il y aura samedi 11 novembre des manifestations dans toute la France, à Paris à 15h, place de la Bastille, à Lyon à 15h, place de la République, à Bordeaux 17h, place de la Victoire, au Mans à 15h, place de la Sirène, entre autres, pour protester contre les massacres commis par l'armée israélienne contre le peuple palestinien, et en particulier à Beit Hanoun, la ville martyre, dans la bande de Gaza. Vous savez que dans la nuit de mardi à mercredi, l'armée israélienne, son artillerie, a bombardé sauvagement la ville de Beit Hanoun, qu'elle a tué 20 civils, et que quasiment tout le monde se tait, nos grands politiciens se taisent, sauf quand des Ségolène Royal ou autres Nicolas Sarkozy nous répètent à chaque mort de Palestiniens qu'Israël a bien le droit de se défendre. Les grands médias zappent rapidement, alors il revient aux citoyens que nous sommes, aux gens ordinaires, de protester contre ces massacres sans nom.
Bonjour, juste un petit message pour tous ceux qui aiment l'Afghanistan et qui veulent découvrir cette culture. Il existe à Lyon un salon de thé associatif afghan sur les pentes de la Croix-Rousse qui est géré par une association d'Afghans, l'association Golshan. Et entre autres de leur activité, tous les vendredis soirs, il y a des concerts de musique afghane. En plus, c'est gratuit. Voilà, ça s'appelle les Tétards de Katmandou, un jeu de mots. Car on y boit du thé tard. C'est rue René Lénaud, le téléphone 04 78 29 96 91. Merci, bonne continuation et merci pour vos émissions si passionnantes.
Je propose à ce café les Tétards de Katmandou de baptiser leur endroit où ils se retrouvent, c'est très bien. Safiyé Amajan. Je leur propose ça. Vous savez qui est sa fille Amajan? Eh bien, c'est une femme, ou plutôt c'était une femme, qui, le 25 septembre dernier, a été assassinée. C'était une femme de Kandahar, c'était une femme qui luttait pour le droit des femmes et qui a été tout bonnement et tout simplement et tout froidement assassinée. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que nous sommes allés en Afghanistan, nous sommes des journalistes, on essaye de faire ce qu'on peut, on essaye de faire ce métier comme on peut, avec des gens compétents et engagés, comme Give, comme Essan, comme Akbar. Et on a cherché, évidemment, partout des sujets, on s'est renseigné, on a rencontré tout le monde qu'on a pu et qu'on a cru devoir écouter. Et personne ne nous a parlé de l'assassinat de cette femme. Et c'est assez dire dans quelle situation sont les femmes en Afghanistan pour qu'une femme de premier plan qui avait été assassinée quelques jours avant notre arrivée n'ait pas fait plus d'écho. Ça aurait dû être le scandale, ça aurait dû être l'émotion au-delà même du pays. Et eh bien les rumeurs ne nous sont pas parvenues et nous n'avons pas été au courant. Voilà, c'est avec ce regret et cet hommage que nous lui rendons, mais c'est aussi évidemment le symbole et le symptôme de la situation des femmes dans ce pays qu'il y a 5 ans nous avions qualifié de génocide des femmes. Eh bien, on va voir aujourd'hui, jusqu'à 16h, que les choses ont très peu changé. C'est jusqu'à 16h. Encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Si jamais ce soir, en sortant de votre travail, vous avez envie de passer un bon moment, si votre patron vous a énervé toute la journée, ce qui me semblerait plutôt normal, si vous avez des alternatives à mettre en acte, passez donc ce soir au barrio de la Quintaluna à Tours pour le Café Repère. À 19h, et ce sera avec plaisir que l'on conversera et que l'on échangera. Merci à tous, au revoir.
Ferré dans un projet tramway, les labassistes niçois auront deux arrêts de choix en ce jour férié du 11 novembre. Premier arrêt, l'arrêt du repère niçois qui se tiendra exceptionnellement ce samedi 11 novembre donc à 16h30. Attention, un repère d'exception donc, un invité modeste et génial d'exception. Donc c'est toujours au Bougalou Bar, 17 rue Pinquenati. Venez nombreux. Deuxième arrêt, le même jour, l'arrêt du festival Question de son, écoutez le cinéma. Cette réunion, ce festival se tiendra à l'espace Magnan. Donc venez nombreux, il y aura aussi l'invité d'exception. Au revoir, Adèle de Nice.
Non, comme c'est difficile de reconnaître une femme sur la burqa, sur le tchadri, on n'appelle jamais. Ça se fait pas ici.
Des femmes réduites à l'état d'objet par un régime religieux qui les avait fait disparaître sous une tenue de fantôme. Et pourtant.
Malala Juya, member of the Parliament of Afghanistan.
Daho Islam Gurmane Kritim Sal Bulchahazi Tawori. Nogor Kulil Muminin Yahudum in Abasari. Mamunan Dahaboro was the Kulnazuruna the Porto Sadiani.
C'est interdit par notre religion de regarder la femme des autres et les autres filles. C'est le diable qui nous tente.
Ah, le diable.
Inside of the parliament, every time when I have a speech, they do not let me. Then they turn off microphone.
Chaque fois que j'ai un discours, que je prends le microphone pour faire un discours au parlement, ils ne me laissent pas parler.
Salut, c'est Daniel Mermet, la messe j'y suis avec Guy Ventil. Un retour en Afghanistan, sa fille est à Majan.
Flight number 2, arriving from New York.
Vous avez compris que nous sommes étonnés de voir que vous avez vous montré votre visage.
Les talibans, ils ne permettent pas de faire d'autres photos que des photos d'identité et on ne peut pas prendre les gens entièrement, c'est juste la tête.
Sur une carte d'identité, sur un passeport, qu'est-ce qu'on met quand il s'agit d'une femme ?
Les femmes n'ont pas de photos d'identité ni de carte d'identité.
C'est-à-dire que les femmes n'ont pas d'identité. C'est une élimination. C'est une disparition.
Pour les talibans, les femmes ne font pas partie de la population.
Ce n'est pas des êtres humains, les femmes, pour eux.
Pour eux, les femmes, ce sont des esclaves et ils en profitent un maximum.
Golbar, octobre 2001.
Madame, on vous a arrêté dans la rue, dans cette petite rue de Golbar, dans le bazar, parce que ça fait 2 semaines que nous sommes en Afghanistan et c'est la première fois en 2 semaines que nous voyons un visage de femme. Parce que, alors, évidemment, ça fait une petite émeute dedans. Ça fait une petite émeute, le fait d'arrêter une femme dans la rue et de lui parler, comme ça tout simplement, ça fait une petite émeute. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, d'où vous venez ?
Je m'appelle Zainab et je viens d'arriver de Kaboul, ça fait un mois que je suis ici.
Vous avez compris que nous sommes étonnés de voir que vous avez vous montré votre visage. Vous ne portez pas le tchadri ?
Non.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est possible de ne pas le porter ? C'est une véritable émeute.
Et ils ne veulent pas qu'on s'assoie là parce qu'il y a...
Et on va aller à côté de la rivière.
Il n'y a personne là-bas, on peut parler tranquillement. Parce que là,
il n'y a personne qui va nous déranger là-bas.
D'accord, allons là-bas, d'accord. C'est une véritable émeute, hein. C'est une véritable émeute, simplement pour le fait qu'une femme qui montre son visage dans la rue s'arrête pour nous parler, tout simplement. Elle est suivie par 2 amis, probablement à elle, qui, elles, portent le burqa ou chadri.
Mais c'est une véritable émeute, hein. Tout le monde nous entoure, tellement c'est étonnant. Alors tout est étonnant, bien sûr, tout le monde s'étonne de tout. Mais là, une femme avec un visage... Qu'est-ce qu'il te dit ?
Ils ne veulent pas qu'on les interroge parce que c'est pas bien d'interroger les femmes. Ça les dérange de faire ça. Parce que c'est pas bien d'arrêter les femmes dans la rue et de les interroger parce que ça fait l'attroupement, ça dérange tout le monde. Et voilà.
Laura Bush était contente. Laura Bush, l'épouse de George W. Bush, était contente lorsqu'elle déclarait que l'émancipation des femmes était l'une des retombées majeures de l'éviction des talibans. Madame Bush était contente, elle n'était pas la seule. Indéniablement, les bombardements sur l'Afghanistan, eh bien, allaient apporter la liberté et la démocratie et l'égalité des femmes et des hommes dans ce pays. Il faut bien reconnaître que, au cours de nos années de reportage, c'est bien rare que nous nous occupons, nous nous penchons spécialement, spécifiquement sur le sort des femmes en les isolant du reste de la société. C'est vrai que c'est pas un regard qui est le nôtre a priori. Mais en Afghanistan, c'est une autre histoire, c'est une autre affaire. Il s'agit, je répète ce mot, d'un génocide. Mais il y a autre chose aussi, c'est que si l'on regarde ces fameuses burqas, vous savez, ces grandes housses bleues avec un petit grillage de tissu au niveau des yeux, qui caractérisent, qui sont presque devenus le symbole de l'Afghanistan, il faut bien remarquer que ces burqas, la plupart du temps, sont en loques, sont sales et dénotent une très grande pauvreté. Et c'est d'abord ça qui caractérise ce pays. On est venu y lutter contre le terrorisme et on a oublié complètement l'essentiel, c'est de lutter contre la pauvreté. L'Afghanistan, sur 177 pays, est le 175e dans l'ordre du développement humain. Et à l'intérieur de cette immense pauvreté, il y a effectivement le sort très particulier fait aux femmes. Aujourd'hui, près de 90% des femmes en Afghanistan sont analphabètes, et surtout les femmes les plus jeunes. La scolarisation des filles est du quart de celui des garçons. Cette année, 300 écoles qui avaient été construites au titre de la reconstruction de ce pays ont été incendié. Le taux de mortalité des femmes en couche est de 60 pour 1000, 60% plus élevé que dans le reste du monde. Seulement 5 à 7% des femmes ont accès aux soins de santé dans certaines provinces, comme celle de Zaboul et d'Helmand. Et on peut continuer comme ça de regarder ces chiffres qui sont produits par des observateurs divers et variés. Par exemple, l'auto-immolation des femmes, jusque dans des villes comme Kaboul, le nombre croissant de suicides. Or, parmi ces femmes, il y en a beaucoup qui se battent contre leurs conditions. Il y en avait une dont je viens de citer le nom, et je vais répéter ce nom, Safia Amajan, qui, le 25 septembre dernier, a été froidement assassinée à Kandahar, où nous étions hier. Et pourquoi donc ? Eh bien, le commandant taliban Mollah Ayad Khan a déclaré que Madame Amajan avait été exécutée en ajoutant, je cite le Mollah Ayad Khan, « Nous avons à maintes reprises prévenu les gens que quiconque travaillait pour le gouvernement, femme y compris, serait tué. » Safia Amajan était une ancienne prof qui travaillait à Kandahar, elle s'était spécialisée dans justement l'éducation des jeunes filles et des femmes, l'éducation ben, pour qu'elles puissent apprendre à lire et à écrire. Elle avait demandé un véhicule sécurisé, elle avait demandé des gardes du corps, ce qui lui avait toujours été refusé. Et donc, voilà, aujourd'hui, nous saluons la mémoire de cette femme héroïque, Safia Amajan. On va rencontrer d'autres aujourd'hui, et notamment Malala Joya, qui, elle, on l'a déjà entendu au cours de ses émissions précédentes, qui, elle, est une parlementaire qui a 27 ans, et vous allez le voir, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Vous avez compris, cette heure est consacrée aux femmes en Afghanistan.
Un parfum de liberté flotte ce soir sur Kaboul. De la musique dans les petits restaurants du marché. Le sourire sur tous les visages. La guerre semble déjà loin. Première journée de liberté à Kaboul. La musique sous le régime taliban était interdite. Je me suis rasé, dit cet homme. Vous voyez, il n'y a plus de taliban. Les barbiers de la ville font recette. Sur le marché, quelques femmes à visage découvert s'adressent directement aux journalistes présents. C'était injuste avant. On était obligé de porter la burqa. Maintenant, nous sommes libres. On est heureux.
On y croyait, certains y croyaient et voyaient dans cette libération des femmes, la libération de tout un pays. C'était plié, c'était gagné, c'était comme d'habitude, c'était comme en 44 en France, c'était comme où on voudra, au Kosovo, en Afghanistan, en Irak, souvenez-vous. Et voilà, on avait apporté la liberté, puis maintenant on allait rentrer à la maison. Évidemment, ce scénario est un scénario médiatique qui ne pouvait pas, il fallait pas être un grand observateur pour comprendre que on pouvait pas s'en tenir à ça. Mais il faut savoir aussi célébrer et se réjouir de journées, de minutes comme celle-là, de minutes, mais sauf que les lendemains ont déchanté, mais quand même pas entièrement, puisque quand même il y a eu des élections en Afghanistan, il faut le rappeler, et il y a aujourd'hui un parlement en Afghanistan, dont on va le voir, Malala Joya, cette jeune députée, fait partie. Et puis, il existe tout de même un ministère de la condition féminine. D'ailleurs, Safia Amajan faisait partie, elle était une fonctionnaire de ce ministère. Donc, brève visite au ministère de la condition féminine.
Oh,
Tout simplement, ce que je voudrais savoir, c'est 5 ans après la chute des talibans, où en est la condition des femmes en Afghanistan ?
Après la chute des talibans, on peut dire que le droit des femmes en Afghanistan a évolué. Les femmes maintenant ont droit de sortir, ont droit de travailler, ont une vie sociale et elles peuvent participer à la vie sociale de ce pays.
Et pourtant, moi, je suis venu ici il y a 5 ans, je ne vois pas plus de femmes dans les rues, je ne vois pas plus de femmes dans la société, je vois toujours des hommes et jamais de femmes. Il faut qu'on vienne ici pour voir quelques femmes.
خب موضوع دیگر هم هست افغانستان یک کشور اسلامی است طبعا خانمی که از خانه بیرون مبرایه و در اجتماع نقش را باید داشته باشه و ایفا کنه طبعا این موضوع ارتباط میگیره با اجازه شوهرش
Oui, l'Afghanistan c'est un pays islamique. Pour l'instant, les femmes ont besoin de demander l'autorisation à leur mari pour pouvoir sortir pour participer à la vie sociale.
Je voyais par exemple une statistique qui disait que 90% des femmes en Afghanistan sont en alphabète. Est-ce que ce chiffre a évolué depuis 5 ans ?
خوبی که 90% زنا بی سواد مانده همش نتایج جنگ های متواتر داخلی در خارج در داخل کشور می باشه و از نگاه از اینکه
Oui, c'est vrai, depuis 30 ans, il y a eu des guerres successives dans ce pays et que ça a empêché les femmes d'aller à l'école. Et c'est vrai que maintenant, le gouvernement permet aux femmes d'aller à l'école, mais ça ne change pas grand-chose à la condition des femmes.
داره از طرف دولت زمینه سازی میشه که باید کار شود در بخش زنان اما بعضی موانعات هایی که وجود داره
depuis qu'il y a le régime taliban qui a disparu c'est vrai qu'il y a un certain nombre de programmes qui est mis en place par l'État pour promouvoir le droit des femmes le travail des femmes mais c'est vrai que les guerres qui se sont passées en Afghanistan a mis des barrières dans la tête des femmes et c'est d'elles-mêmes que ça vient en fait la fermeture c'est qu'elles n'osent pas sortir parce qu'elles ont un sentiment d'insécurité et ce sentiment d'insécurité les empêche d'aller travailler, de participer à la vie sociale.
Pas mal.
On est dans le principal bazar de Kaboul.
Là, on est dans la rue, c'est les vêtements, quand même, beaucoup. Hein.
Voilà. C'est les grossistes, c'est les marchands de tissus, des produits de beauté, cosmétiques.
Deux demoiselles qui papotent sous leur burqa. Alors, je ne sais pas comment elles arrivent à trouver où se trouve l'oreille de sa copine, parce qu'elles étaient en train de se susurrer des mots à l'oreille, à travers deux couches de tissu. Et là, pendant ce temps-là, il y a une affiche là, pour un film indien, ou je ne sais pas quoi, où on voit une femme lascive et langoureuse qui s'étend à moitié découverte, qui fait un gros contraste avec ce qu'on voit dans la rue. Là, c'est des petites culottes. Petites culottes, c'est un bien grand mot. C'est plutôt des grosses culottes.
Oui.
On est très loin du string parce que juste à côté, il y a le marchand de burqa. Mais burqa, pas pour tout le monde, parce que là, on voit les deux dames qui passent avec leurs enfants sous le bras, avec juste un petit voile posé sur la tête, mais sans plus que ça. Quoi.
Non, mais par rapport au reste de la ville, c'est pas mal ici. On voit plus de femmes. En burqa, sans burqa.
Attention, là, je me fais écraser par un monsieur qui passe avec une grosse pastèque dans sa brouette. Pendant que derrière, il y en a un autre avec un chariot. Ah, et voilà les marchands.
Voilà les marchands de burqa, on appelle ça tchadri ici.
Mais alors qui me dit burqa alors ?
Burqa, c'est les Pakistanais qui disent burqa et dans les pays arabes.
D'accord, et là c'est impressionnant parce qu'on voit toutes sortes de bleus, mais on voit aussi des jaunes brillants.
Et orange, il y a blanc aussi.
Salin ?
Salin.
On peut rentrer alors ? Voilà. Et alors, bon, bah, pour un œil pas expert pour moi, c'est toujours le même qui est suspendu. Là, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines de tchadri, c'est-à-dire cette espèce de cape total look plissé avec un bel ourlet au bout. Ah, il y en a encore derrière. C'est rigolo, quoi. On a l'impression d'être dans un magasin de rideaux.
Ouais.
Mais en fait, c'est des rideaux pour mettre sur la tête des femmes, quoi.
Quelle couleur vous voulez ?
Ah, voilà le monsieur qui nous en sort un. Alors bon, pour un œil pas expert comme moi, il ressemble à tous les autres. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial celui-là ?
Coréen. Ça c'est coréen.
Coréen ? Ouais. Et les coréens, ils font des tchadris ?
Non, le tissu est de Corée.
Mais...
C'est du nylon.
Oui, c'est du nylon.
Et ça, c'est mieux?
Ah, il a une durée de vie plus longue.
Oui, parce que c'est plus résistant.
Et alors, par exemple, voilà, un chadri comme ça, coréen, donc en nylon, ça vaut combien?
$1, $6.
Ça fait $30.
$30, ouais, par rapport au niveau de vie, c'est pas mal, quoi.
Oui, c'est pas mal, oui. C'est pour ça que c'est résistant, parce que tu peux pas t'acheter tous les jours un chadri.
Et alors, sous l'époque des talibans, c'était obligatoire pour toutes les femmes?
بله در زمان طالبات جبری بود طالب فعلا دیگه جبری نیست کسی میپوشه کسی نمیپوشه
oui c'est vrai que pendant les talibans c'était obligatoire maintenant ça dépend des gens il y en a qui le portent il y en a d'autres qui le portent pas.
Alors qui porte des chadris? Parce que là je vois dans la rue du bazar là on voit en ce moment deux femmes qui marchent mais il y en a d'autres qui passent avec juste un petit foulard un petit hijab sur la tête. Qui porte les chadris?
مردم اطراف میباشه از خود کابل نمیباشه زیادترش از اطراف میاد.
Souvent, c'est des femmes de province qui viennent acheter des chadris ici. Ce n'est pas les gens de Kaboul. Parce que leurs maris, leurs hommes ne veulent pas qu'on voie leurs femmes. Comme ils étaient loin de, les hommes étaient loin de l'instruction de l'école, du savoir, bah, ils considèrent ça comme une honte qu'on voit leur femme, donc c'est traditionnel, c'est une tradition plutôt.
Et alors, combien on en vendait par jour à l'époque des talibans?
Ça dépend, il y a des jours on en vendait 10, d'autres 15, d'autres 20.
Ouais, 15-20 par jour. Et maintenant, alors, maintenant que les talibans sont tombés, on en vend autant ou on en voit moins qu'à l'époque des talibans?
Ah non, maintenant ça marche mieux parce que maintenant les routes sont ouvertes et que maintenant les gens peuvent venir de province faire leurs courses ici et acheter des choses. Et voilà, et en province, il y en a qui portent le chadri, donc ils viennent acheter les chadris ici.
Allez, ça marche mieux, on en vend plus qu'avant.
On en vend plus qu'avant.
Ah, ça, je comprends pas ça. Maintenant que c'est plus obligatoire, on en voit plus. Et est-ce que vous le prenez mal si je vous demande si je peux tester un chadri derrière, bien sûr, pas dans la rue, mais juste le mettre sur ma tête pour voir comment ça fait?
Pourquoi pas, ouais.
Est-ce que je peux me travestir en gros? D'accord, mais alors je me mets derrière parce que là il y a un attroupement qui se fait. On va aller dans l'arrière-boutique, mais pas non plus devant toute la rue du bazar de Kaboul me déguiser en fille, c'est-à-dire me mettre un espèce de serviette sur la tête. Alors je me tourne, d'accord. Je mets dans ce sens-là. Ah, là je marche dessus. Alors on met avec le casque de micro, c'est un peu difficile. Et hop! Ah, ça y est, là je suis sous. Mais alors, où est-ce qu'on voit? Ah oui, là je vois un petit trou quand même. Mais j'entends moins bien ce qui se dit quand on est là-dessous. Et bon, bah, alors on voit pas ses pieds. Hein. Je vois juste devant moi un petit halo de lumière. Et là, la température extérieure est de 30 degrés. Maintenant, je dois être à peu près sous le tchador à 35. Il fait bien chaud. On peut voir ses pieds en se baissant la tête. Mais alors, dans ce cas-là, pour tourner, pour voir à gauche, il faut que je fasse un demi-tour. À droite, il faut que je fasse un demi-tour. Et alors, ah, d'accord. Il est plus bas devant pour pouvoir sortir les mains, c'est ça? Attends, j'essaie de sortir mon micro comme ça, voilà.
Voilà.
Comment tu me trouves, Hassan?
Bon, là, je peux même pas dire que ça te va bien parce que je vois rien. Je te vois pas du tout, mais.
Vous voyez ce qu'il dit?
Il dit il faut. Il y a le... Ouais, parce qu'on ne voit pas très bien parce que tu as le casque sur la tête et.
Ah, ça gêne ma silhouette.
Bizarre, ouais. Ouais, ouais.
Ça fait une silhouette un peu bizarre, ça fait un peu Mickey, c'est ça?
Voilà, ça fait un peu Mickey.
Toi aussi, tu vas... Ah, vas-y, mets-toi, Essan, comme ça, moi, je verrai mieux son casque, comment ça va, Essan, notre traducteur qui enfile le tchadri. Voilà. Ah, mais ça te va très bien, tu sais. Alors, regarde, on va faire un test. Combien de doigts, là, je te montre?
Ouais, 4. Non, ça va, quand même. On voit, mais c'est vrai que c'est très gênante.
Est-ce que là, tu...
On voit loin, mais on voit pas ses pieds. Ah ouais, parce que je le porte pas bien. Ah bah voilà, c'est mieux. C'est mieux, oui, il faut savoir le porter, en fait. Voilà, oui, maintenant je vois mieux, oui. Parce que là, je viens de...
Et voilà, Essan qui est en train de téléphoner sous son tchadri. Alors ça, c'est une scène qui vaut son pesant de cacahuète. Un franco-afghan qui est déguisé en fille, c'est-à-dire avec un abat-jour total look qui descend de la tête aux pieds et qui est en train de téléphoner. Alors, on entend une voix sourde qui sort de sous le tissu. C'est Hassan. Et moi, j'ai une question idiote à poser, mais bon, faut que je la pose. Quand on voit quatre femmes en tchadri qui marchent côte à côte, c'est-à-dire avec cette burqa bleue là qui descend de la tête aux pieds, comment on reconnaît laquelle est laquelle ?
او معلوم نمیشه او کسی شناخته نمیتونه تا برتون بگویم که اگر مادرش باشه همشیرش باشه پیشریشتش نمیشناسه
اه c'est très difficile de savoir hein. Même leur mère leur père ne peuvent pas les reconnaître dans la rue.
Ouais, c'est
ça, inaperçu, elle passe inaperçue.
Donc ça doit faire des quiproquos parfois, on appelle sa femme et puis en fait c'est pas du tout sa femme et c'est une autre femme qui se retourne.
Ne دیگه او را باید سکوت نمیکنه به خاطر که معلوم نمیشه که بگه خانم مسور صدا کنه چون کس شناخته نمیتونه.
Non, comme c'est difficile de reconnaître une femme sous la burqa, sous le tchadri, on n'appelle jamais. Ça ne se fait pas ici.
Ah,
voilà. Ça évite de se tromper. Et quand on n'est pas sûr, on n'appelle pas une femme dans la rue.
Et vous, là, les deux jeunes qui tenaient la boutique, là, est-ce que vous êtes mariés, par exemple ?
Non, pour l'instant, on n'est pas mariés.
Bon, elle sera comment, alors, votre fiancée plus tard ? Comment vous allez la choisir ? Parce que si elle a ça sur la tête, comment on fait pour trouver une jolie fille à épouser ?
Moi, je prendrai pas une femme qui porte le tchadri.
Ah bon ? Mais alors ça, je suis surpris, quoi, que le marchand de burqa ne veuille pas épouser une fille qui porte un burqa. Ça, j'arrive pas à comprendre. C'est anti-commercial.
Ça, c'est les affaires, hein. Ça n'a rien à voir.
Ah oui ? Les sentiments et les affaires, c'est des trucs différents. Business au eshk.
Voilà.
C'est ça, business au eshk, les affaires ou l'amour, ça se dit.
Our kavinya galaydi. برکم لجان ایندا پر پر یادم ای کم و لزن یا لیدان ای آجاری دی بر تو الای چاکن ای بولای بولای بولان در شایل الای تو تلاوین یا ولای ای Havay şamallı çanga, yanda gir kolum nanga Allah'ım parni yolda buyuşun havanım sengen ay Mısırlam dınayı gaya, badanın rayı gaya Bıdan bir nacı tutsağa, havuzunu labiyaya Adayını yazdık hadi bu belli kıblen yok sana Valheyni yollaydı ya Gamge veredi imanlı kemal kemal akayan ay Hoca ilken cebul diye bir kar bizden sabul de Hatim bu sabit tıpkı ya Aken şavur avul de Kulağım ayal ya
I want to tell you that liberation and freedom is not something that another country gift us and donation for us and give us. If one day give us another day, they will take it back.
Parce que je veux que ceux qui sachent que la liberté n'est pas un cadeau qui nous est fait dans un pays. Ça ne doit pas être un cadeau qui nous est fait des pays étrangers. Parce que s'ils nous l'offrent, ils peuvent la reprendre un jour.
Voilà, elle s'appelle Malala Yousafzai. On l'a déjà entendue dans différents moments de cette suite de reportages. Elle a 28 ans. Elle est élue au Parlement de Kaboul. Et elle est élue de la province de Farah, c'est une province dans l'ouest de l'Afghanistan, et inlassablement, vous allez voir avec quelle énergie, avec quel sens de la résistance, Malala Yousafzai dénonce ce qui ne va pas dans son pays, et pour elle, et pas seulement pour elle d'ailleurs, sont les seigneurs de guerre, les warlords, qui sont qui ont gardé le pouvoir dans leur région et qui en plus maintenant font partie du gouvernement, les barons de la drogue qui sont souvent les mêmes et dont une partie siège au Parlement, et depuis des années, elle est pourtant très jeune, mais ça n'empêche pas depuis des années de dénoncer ces criminels qui ont détruit l'Afghanistan, et elle affirme que le président George W. Bush doit faire des excuses et doit être poursuivi pour le soutien qu'il a apporté à ces criminels de guerre et à ces extrémistes de la violence dans son pays. Dans sa un peu plus jeune, quand elle était plus jeune, elle animait une école clandestine pour les filles, justement, elle aussi. Elle a survécu à 4 tentatives d'assassinat, et l'entretien que vous allez entendre est fait chez elle, dans sa maison, dans un quartier de Kaboul, mais en présence dans la pièce où nous sommes d'hommes armés, et entre la pièce où nous sommes qui est en contrebas dans sa maison et la rue, il y a toute une série d'hommes en armes, d'escortes et de gardes du corps qui sont là pour protéger la vie très très menacée de cette femme, petite taille, très énergique, avec un simple voile sur les cheveux. D'ailleurs, de la même façon que les autres femmes qui travaillent avec elle et qui l'entourent, donc elle ne porte pas la burqa. Voilà, Malala Joya.
Est-ce que vous êtes musulmane?
You know, most of the population of Afghanistan, they are Muslim. But I am a Muslim who believes in secularism. If we have secular government,
la majorité de la population en Afghanistan est musulmane, mais moi je suis pour un islam séculier, c'est-à-dire laïque. Et je pense que si l'islam était laïque en Afghanistan, beaucoup de ces criminels qui se réclament de l'islam ne pourraient plus commettre leurs crimes, ne pourraient plus tout se permettre au nom d'Allah.
Bon, on a compris, vous êtes en opposition complète avec les talibans. Et les talibans, on a cru qu'ils étaient partis, et les revoilà. Ils reviennent et ils sont pas contents.
Because US and US allies, unfortunately, they replaced instead of Taliban North Alliance jihadi people.
Parce que c'est d'abord parce que les États-Unis et la coalition ont remplacé les talibans par d'autres djihadistes qui sont ceux de l'Alliance du Nord.
As I had a speech in Parliament on 7th of May, these warlords physically beat me by throwing bottles of water. Even one of them shouted in Parliament, take and rape her, and they said prostitute and like this because.
Mais moi, j'ai été prise à partie au Parlement même après un discours. On m'a jeté des bouteilles d'eau, on m'a violenté. Il y en a même un qui s'est levé qui a dit prenez-la et violez-la. Parce que j'avais ouvert la bouche pour dire.
Because I said there that we have two kind of mujahideen. One real mujahideen that they martyred because of freedom of their country. And right now we have lots of orphans, widows.
Oui, parce que j'ai dit, il y a deux sortes de mujahideen. Il y a deux sortes d'anciens combattants. Il y a ceux qui sont battus pour la liberté de leur pays, qui sont tombés au combat, qui ont été martyrs, qui ont laissé des veuves et des orphelins.
C'est le cas de votre père. C'est le cas de votre père.
My father also was one Afghan, like other Afghans.
Mon père était un Afghan comme beaucoup d'autres.
And he must fight because of freedom of his country.
Et il a dû se battre pour la liberté de son pays.
Yeah, and another kind of mujahideen, they are criminal mujahideen because when Russian became failed in Afghanistan, they went out from Afghanistan.
Et après, il y a ceux qui ont tiré profit de la défaite russe et du retrait progressif des Russes et qui ont commencé à créer des partis qui se sont battus les uns contre les autres pour leur propre intérêt. Et qui ont tué énormément de civils.
Only in Kabul they martyred 65,000 people only in Kabul.
Rien qu'à Kaboul, 65 000 personnes sont mortes ainsi.
And it's enough that you see that what's going on in Kabul, that why millions of dollars the government of Afghanistan they are receiving under the rebuilding of Afghanistan, the reconstruction of Afghanistan.
Et maintenant de voir qu'il y a des millions de dollars américains et étrangers qui arrivent rien qu'à Kaboul pour la reconstruction de ce pays.
But here is no fundamental changes and the main
on ne voit aucun changement fondamental pourtant dans la situation des gens.
And the main reason is this that US and US allies they replaced instead of Taliban North Alliance jihadis people those criminals that they are not real mujahideen they are those criminal mujahideen.
Et ça c'est que les États-Unis et leurs alliés ont remplacé à la place des talibans pour donner cet argent et pour reconstruire le pays les djihadistes fondamentalistes de l'Alliance du Nord qui ne sont pas des vrais mujahideen.
And they are those mujahideen that because of power they martyred lots of innocent suffer people in Afghanistan.
Ils ont tué énormément de civils innocents juste pour leur appétit de pouvoir. Ils ont tué
des Pashtuns, ils ont tué des Hazaras.
Because these North Alliance, they have same idea like Taliban.
And they are those que les talibans.
And they are those people that they also don't want to come security in Afghanistan.
Et
why?
Ce sont les mêmes qui ne veulent pas que la sécurité soit instaurée en Afghanistan.
Because every crimes in Afghanistan that happen, they are saying Talib. They are not only terrorist Talib, and they want to show to the people around the world, especially to US and US allies, that only jihadi people they control Afghanistan.
Parce que chaque fois qu'il y a un crime qui est commis en Afghanistan, tout le monde dit « Ah, c'est les talibans, c'est les talibans ». Et donc, ils ont tout intérêt à faire prospérer ce désordre. Et chaque fois, l'Alliance du Nord peut dire aux Américains et à leurs alliés « Regardez, c'est les talibans et nous seuls pouvons contrôler le pays ».
And if we have real democrat government, non-warlordism government in Afghanistan, non-drug lord government in Afghanistan, our people, even they are very poor people. They are those people that they become tired from the fighting, from the terror, from everything.
Et notre peuple qui est fatigué de la terreur, fatigué de la guerre, fatigué de tous ces combats, s'il y en avait un gouvernement, un vrai gouvernement, sans des seigneurs de la guerre, sans des seigneurs de la drogue, sans des gens qui ont du sang sur les mains, on serait capable alors de reconstruire ce pays.
L'accord sur la transition politique a enfin été signé aujourd'hui à Bonn. Après 9 jours d'intenses négociations, le nouveau gouvernement marque l'avènement de jeunes dirigeants avec à leur tête Hamid Karzai, Hervé Guéquière et Benoît Véran à Bonn.
L'image symbolique de toutes les factions afghanes autour d'une même table à Petersburg. Finalement, les partisans de l'ancien roi Zahir Shah remportent la présidence du gouvernement provisoire. Hamid Karzai, l'homme qui se bat actuellement dans la région de Kandahar, a été choisi par ses pairs. Karzai est investi d'une lourde mission. L'Alliance du Nord remporte pour sa part 3 postes clés dans le gouvernement. Les affaires étrangères pour Abdullah Abdullah, proche de feu le commandant Massoud. La défense pour le général Fahim, 44 ans, lui aussi ami de Massoud. Enfin l'intérieur pour Younis Kanouni, qui a conduit la délégation de Bonn. Les 3 hommes sont des jeunes loups de l'Alliance du Nord.
Eh bien c'est contre ces jeunes loups que se bat Malala et Joya, ceux qui sont présentés contre comme des jeunes loups par qui? Eh bien par nous qui nous sommes représentés. Ce conflit à travers une alliance du Nord avec la figure de Massoud et l'alliance du Nord qui était du bon côté, c'est-à-dire du nôtre, c'est-à-dire du côté des États-Unis, c'est-à-dire des côtés des vainqueurs. Et à Bonn, lors de la construction du gouvernement, les postes ont été répartis entre ces jeunes loups qui ont les dents longues depuis longtemps, dents avec lesquelles ils ont depuis longtemps fait souffrir leur peuple réciproque jusqu'à avoir beaucoup, beaucoup de sang sur les mains. C'est ainsi que Malala et Joya voient les choses. Je rappelle que Malala et Joya, c'est un prénom, c'est le prénom d'une grande héroïne afghane, une jeune campagnarde qui s'était rendue célèbre par sa bravoure et sa résistance contre les Britanniques au XIXe siècle. Mais nous, on a une star en France qui est Massoud. Les Français adorent Massoud parce que Massoud c'est un héros, parce que Massoud s'est battu tout seul, parce que Massoud c'est le lion du Panjshir et il s'est battu contre les talibans de façon héroïque, solitaire. Et puis il a été assassiné quand même par les gens d'Al-Qaïda le 9 septembre 2001, etc. Est-ce que lui aussi vous le comptez parmi ces assassins?
I want to tell you that Ahmad Shah Massoud is not hero of Afghanistan.
C'est pas un héros de l'Afghanistan, Ahmad Shah Massoud.
Yeah. Why? Because right now brothers of Massoud who have same idea like Massoud, they are in power.
Parce qu'aujourd'hui, son frère qui a les mêmes idées que lui est au pouvoir.
And you should ask from offshore people that Taliban they did massacre in the Kowloon of Bamiyan and this Massoud and party of Massoud they did massacre in offshore. They killed lots of
Massoud,
lots of Hazara people.
Est-ce qu'on fait aux gens d'Afshar, les gens des Hazara de la région de Bamiyan, ou c'est les gens de Massoud qui les ont massacrés?
And I have lots of documents. Even you should write the Human Rights Watch book that also.
Il y a beaucoup de documents à ce sujet. Par exemple, un rapport de Human Rights Watch.
And they wrote very well about the criminal faces of Massoud, especially from 1992 to 1996.
Et qui écrivent et qui décrivent très bien qui était ce Massoud et ce qu'il a fait, en particulier entre 1992 et 1996.
And there's lots of facts that we are saying Massoud is also one of the criminals. It's not easy telling about Massoud.
Et c'est très difficile de faire entendre aujourd'hui et de dire l'histoire de l'Afghanistan et de ce qu'a fait vraiment Massoud.
Alors Massoud est mort aujourd'hui, mais il y a des seigneurs de guerre, des commandants, comme on voudra, qui eux sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont ministres, qui occupent des places importantes. C'est eux que vous combattez et c'est eux que vous dénoncez.
Yeah. And we hope that one day all of these criminals go to the national and international courts. They face to the national and international courts.
Aujourd'hui, nous, ce qu'on espère, c'est qu'un jour tous ces criminels qui restent encore vivants comparaissent devant des tribunaux internationaux.
And they become powerless. Tell these warlords, these drug lords, these brothers of Massoud that they have same idea like Taliban. They are against women, against human rights, against constitution.
Ces seigneurs de la drogue, ces seigneurs de la guerre, ce frère de Massoud. Qui ont les mêmes idées que les talibans contre les droits des femmes, contre les droits de la population.
I know it's very risky for me that I'm talking openly about
these. Je sais que c'est très risqué pour moi de dire ces choses ouvertement à propos de tous ces criminels.
Because they are in power, killing of human is very easy for them, like killing of bird, especially they are against women.
But I said that truth. Why are they afraid? Et c'est très facile pour eux de tuer quelqu'un. C'est aussi facile de tuer quelqu'un que tuer un oiseau. Mais pourtant, je le dis quand même.
Vous avez fait l'objet de plusieurs attentats.
This is four times that they did assassination after my speech in Lojirga 2003, but they didn't become success. And after that, my life has been completely changed.
Ils en sont à la quatrième tentative d'assassinat contre moi après le discours que j'ai fait en décembre 2003 à la Lojirga. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore réussi, mais en tout cas, ils ont complètement bouleversé ma vie.
Inside of the parliament, every time when I have a speech, they do not let me. Then they turn off my microphone.
Chaque fois que je prends le microphone pour faire un discours au parlement, ils ne me laissent pas parler.
Dites-moi précisément qui vous visez.
Sayaf,
Khalili, Mohamed,
Rabbani,
Massoud, Rabbani,
Haji Almas, Hazrat Ali, Piram Khol, Qanouni, Arif Nourzai. About which one I should tell you? Golab Zoui, Ulumi.
Par lequel commencer?
Naturellement. Golab Zoui, Ulumi, Rakiti.
Rakiti,
most of these criminals, they found way inside of the parliament.
Et 20%. La plupart de ces criminels sont tranquillement au sein du parlement afghan.
Gulbuddin Hekmatyar is the most wanted terrorist parties in Afghanistan around the world, not only in Afghanistan. But right now, 24 members of the parliament, they are Gulbuddini parties.
Gulbuddin Hekmatyar, qui est un des terroristes les plus recherchés actuellement en Afghanistan, et pas simplement en Afghanistan, mais de l'autre côté de la frontière aussi, bah, il a 4 de ses représentants qui sont élus au parlement. Ça, c'est, est-ce que c'est ça la démocratie?
Rahmatullah Hashimi, he is a student of the University, the best university of the US.
Lui, il a étudié à l'université de Yale, qui est la meilleure université américaine, mais pourtant c'était un porte-parole des talibans.
Right now, Rakhati is in parliament.
Maintenant, Rakhati est au parlement lui aussi.
Not only Rakhati, right now more than Taliban, more than Rakhati, these jihadis are more risky.
Et non seulement il y a les talibans, mais il y a aussi des jihadistes qui sont parmi eux.
Okay. Maintenant, chère madame, supposons que vous ayez là devant vous la communauté internationale elle-même. Que faudrait-il qu'elle fasse? Quelle serait pour votre pays une bonne politique?
The good policy is this, that unfortunately after meeting of Bonn, after conference and meeting of Bonn, unfortunately the situation in Afghanistan is like coin. Like coin that in one front of coin was Taliban, in another these North Alliance.
Le problème, c'est qu'avec la grande conférence de Bonn qu'il y a eu sur la reconstruction de l'Afghanistan, la situation de l'Afghanistan a été résumée à une pièce avec d'une face les talibans et de l'autre côté les mujahidins.
And if the president of Afghanistan, who has the support of foreign countries right now in Afghanistan, and he promised for our people that I will never have compromise and start once again during the presidential election, and once again he start more and more compromise with these criminals.
If he support the freedom loving parties, people, je ne ferai pas de compromis. À partir même du moment où il a commencé sa campagne électorale, il n'en a fait que des compromis avec des criminels de guerre. Par exemple.
We have lots of personality, lots of good educated, well educated people that they are in the foreign countries.
They are not coming because of security. Qui sont des Afghans de l'étranger, mais qui ne viennent pas ici, qui restent à l'étranger pour des raisons de sécurité.
Most of them are poor, most of them are jobless.
Et la plupart des gens qui sont ici sont pauvres, sans emploi, sans sécurité.
Non-educated people, lots of problems.
Il y a beaucoup de problèmes, par exemple d'éducation, les gens.
It shows that people, even they are not educated people, but they are awareness people. Now
même
they
si
can well recognize
éduqués,
who are enemies, who are friends.
Au moins, ils sont conscients, ils peuvent très bien reconnaître qui sont leurs amis et qui sont leurs ennemis.
But they support, they need to support of you, moral and material.
Mais ils ont besoin de votre support matériel et moral.
Je fais une petite remarque, mais off, comme ça. Je me demande toujours pourquoi les Afghans cachent leurs femmes. Je me dis que si toutes les Afghanes sont comme vous, je comprends un peu pourquoi ils les cachent. Pourquoi ils les font taire.
This is the reason they're afraid they don't want to be activists.
C'est pour ça qu'ils ont peur. Ils ont peur que les femmes s'engagent.
Moi, je comprends maintenant. Vous nous donnez la réponse.
It's a shame for a coward.
Merci à Malalai Joya. Et rappelez-vous du nom de Sophia Anajan, donc cette femme assassinée le 25 septembre dernier à Kandahar. C'était un reportage avec Guy Ventil, Essan Merenguen et notre traducteur. Toutes les informations concernant les repères des amis de La Basse si j'y suis sont disponibles sur le site de France Inter, rubrique émission La Basse si j'y suis. Et puis demain, une émission spéciale de La Basse si j'y suis, un hommage à Pierre Vidal-Naquet. Et un hommage lui sera rendu toute la journée de demain à la Bibliothèque Nationale de France, au site François Mitterrand, de 9h30 à 19h30, toute la journée, vous pouvez y aller. Pierre Vidal-Naquet, un historien dans la cité, s'est organisé avec Le Monde Diplomatique, les éditions de Minuit, l'association Castoriadis et toute une série de personnalités, d'amis de Pierre Vidal-Naquet lui rendront hommage et nous nous joindrons à cet hommage à 15h dans La Basse si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Dimitri Gronoff et Eric Mainviel. Raphaël Moutarde s'est occupé du montage de cette émission. Yann Chouquet et Koyen Guyon l'ont réalisé, assisté de Pascal Le Pascariello et de Christophe Imbert qui vous attend tout près du répondeur au 01 56 40 37 37. Et puis dans un instant, dans 10 minutes, on se retrouve sur le site de France Inter, www.franceinter.com, pour chatter tous ensemble.